Radio Libertaire 89.4.
Ils sont de tous les vestibules, de tous les salons majuscules, les noctambules. Soir après soir, ils font les boîtes, le cul posé sur de la ouate, les noctambules. Le timbre, la fave et l'œil vitreux, ils se couchent tard et dorment peu. Mais tous les soirs, c'est immuable, ils ont un whisky sur la table, les noctambules. À Saint-Tropez, à Saint-Canaille, ils se retrouvent, vaille que vaille, les noctambules.
Oui, Radio Libertaire, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste. Dans quelques instants, le Ferry Club. Veuillez noter que la semaine prochaine, le Ferry Club commencera à 15h15. Voilà, tout de suite, le Ferry Club. Radio Libertaire, c'est la voix de la Fédération anarchiste.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Souvenirs fleurissent sur l'étang de ce lointain château d'une lointaine Espagne. Ils nous disent le temps perdu, oh ma compagne, et ce blanc nénuphar, c'est ton cœur de 20 ans. Un jour, nous nous embarquerons sur l'étang de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie. Un jour, nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne plus jamais revenir. Souvenirs se noieront dans l'étang de ce lointain château d'une lointaine Espagne, et nous ne garderons pour nous, ô ma compagne, que ce blanc nénuphar et nos cœurs de 20 ans. Un jour, nous nous embarquerons sur l'étang de nos souvenirs et referons pour le plaisir le voyage doux de la vie. Un jour, nous nous embarquerons, mon doux Pierrot, ma grande amie, pour ne plus jamais revenir. Alors, tout sera lumineux, mon ami.
Ferry Club, votre tranche hebdomadaire de Léo, bien sûr, entre 16h et 17h sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, 89.4 FM à Paris et www.radio-libertaire.quelque-chose. Vous le savez, cette année, j'ai pris le parti, durant le mois d'août, de laisser un peu de côté Léo, de lui accorder un petit peu de vacances et de nous consacrer, de vous proposer, en ce mois d'août, des émissions consacrées à d'autres chanteurs que Léo. Après Renaud il y a 15 jours, après William Schellier la semaine dernière, ce soir, nous allons parler d'un autre chanteur en ta compagnie, Guillaume, bonsoir.
Ouais, salut Davou.
Comment vas-tu ?
Bah super, je suis très content d'être de retour à Radio Libertaire, ça faisait longtemps.
Oui, ouais, ça faisait quoi ? Ça faisait
un an la dernière, ouais, c'était déjà au mois d'août, non ?
C'était au mois de juillet, parce que c'était pour les 30 ans.
Oui.
Une émission,
ouais, et puis et très content aussi de venir pour parler de Jacques Bertin, puisque c'est de lui dont on va parler aujourd'hui.
Je te laissais bien sûr la prime, c'est le choix.
Belle perche. Jacques Bertin, en fait c'est un chanteur pas très connu finalement du grand public. Il a son cercle de fidèles. Ça qui est assez amusant aussi, c'est que tu vois les gens qui l'ont suivi depuis son début de carrière en 67 jusqu'à aujourd'hui. Il a pris sa retraite il y a pas longtemps, en 2022. C'est assez rare aussi qu'un chanteur prenne sa retraite, décide de dire bah j'arrête, ça suffit, que ce soit pour des raisons de santé ou juste parce que une envie qui est moindre aussi, quoi, de continuer à prendre la route pour aller faire des concerts sur tout le territoire.
Oui, parce qu'en général, la fin de carrière de chanteur, c'est tomber dans l'oubli.
Ouais, ou alors c'est jamais reluisant. Bah, tu vois, tu parlais de Renaud, l'émission que vous avez fait avec Max. Tu vois, la fin de carrière de Renaud aujourd'hui, tu aurais espéré qu'il arrête plus tôt. Mais
oui.
Bon. Et du coup, c'est donc 50-50 carrière entre 67 et 2022. Ce qui est pas rien aussi. Enfin, finalement, t'en as pas beaucoup qu'on durait aussi longtemps. Et en plus, qui sont passés à moitié en dessous les radars, puisque on en reparlera plus tard dans l'émission, mais à partir des années 80, du mi-temps des années 80, il s'autoproduit totalement. Il arrête le circuit des maisons de disques. Il était au Disque Alvarez, puis au Chant du Monde, où avait débuté Léo. Et il y a eu un refus constant tout au long de sa carrière du show business, des diktats de la mode, des atermoiements du public. Il est resté fidèle à ce qu'il avait envie de faire, à une certaine idée de la chanson. J'ai envie de dire très belle, sinon on serait pas là, quoi. Mais au-delà que ce soit beau, je trouve que c'est une œuvre qui est gigantesque et avec plein de points d'intérêt à décrocher, à scruter. Enfin, on peut rentrer dedans par plein d'endroits. Et en ça aussi, ça me fait un peu penser finalement à l'œuvre de Léo, même si je trouve que celle de Bertin est beaucoup plus linéaire, en tout cas dans la façon d'envisager la chanson. Ferry va passer par le rock, par la symphonie, il y a des moments très chansons, cabaret, d'autres non. Il y a tellement de morceaux honnêtes, je sais pas comment... Mais vraiment honnête, quoi, chanter qui creuse l'estomac, quoi, direct quand tu les écoutes, c'est la première fois. Que t'es pas besoin de chercher les tubes, quoi. Finalement, Jacques Bertin, il a un seul tube entre guillemets, c'est le morceau qui va le faire découvrir en 67, Corentin, qui est même pas un très bon morceau, je trouve, enfin, qui apporte un truc un peu nouveau à l'époque peut-être, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il y a des moments vraiment délicieux, quoi, dans son œuvre.
Bien sûr. Alors moi, je t'avoue, je ne connaissais pas Jacques Bertin jusqu'à ce que tu m'en parles. T'es la première personne à m'en avoir parlé. C'est pas la première fois que tu m'en parles ce soir. Tu m'en as parlé à plusieurs occasions.
Ouais.
Je crois que l'une des toutes premières fois où tu as évoqué Jacques Bertin, alors au-delà peut-être de l'entretien dans le Ferry Club, peut-être qu'on en avait parlé, c'est pas impossible. Parce
ouais,
que
peut-être. Ouais.
T'avais fait quelques références à quelques chanteurs à ce moment-là. Tu nous en avais parlé une première fois lors d'une émission consacrée à des reprises de Léo, au cours de laquelle tu avais choisi de passer le bateau espagnol, je crois.
Ouais.
C'était le 21 août 2018, dans ton rencontre, il y a...
6 ans bientôt.
Voilà, quasiment 6 ans. Eh bien oui, puisque l'émission est diffusée le 21 août, c'est bien ça. Donc ça fait 6 ans jour pour jour qu'il y a eu cette émission de reprise.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire à cette émission. Et une deuxième fois, lors d'une émission, dans le cadre de l'émission Nuit Noire, que nous avions consacrée à des chansons un peu tristes, puisque une des activités que tu menais il y a quelques années de ça, c'est que tu organisais des soirées de chansons tristes.
Ouais, c'était des après-midi.
Des après-midi.
Des après-midi où en fait, je réunissais des copains ou des copains de copains, copines. Bon, on n'était jamais non plus une ribambelle, hein, mais et on écoutait. Enfin, je proposais à l'écoute des chansons tristes. Pas forcément les chansons les plus lamoyantes du monde, quoi. Le but, c'était pas. On écoutait en lisant les paroles en même temps, puis après on en discutait, tu vois. Et tu vois, il y a des chansons que les gens me disaient, bah, tu vois pas en quoi c'est triste, ou, tu vois. Enfin, et c'était cool aussi, tu vois, de voir c'est quoi une chanson triste, enfin, comment tu la définis. Et en plus, une chanson dite triste que t'écoutes à plusieurs, c'est pas la même chose quand tu l'écoutes tout seul aussi. Et voilà, après les personnes proposaient des morceaux qui eux aussi résonnaient en haut d'une manière tellement différente. J'en rappelle que quelqu'un avait proposé Désiré Laisse, Voyage Voyage.
Ah ouais.
Et quand il me dit ça, tu vois, je dis mais t'es Voyage Voyage, c'est un truc qui passe en boîte. Il me fait ouais, mais Voyage Voyage, c'est hyper triste en fait. Je fais ah bon. Et donc on avait écouté Voyage Voyage, et c'est la première fois que j'ai écouté Voyage Voyage. De cette façon-là, en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de mélancolie bizarre à l'intérieur dans ce morceau, qui est pourtant un morceau hyper dansant. Et après, on avait, des années plus tard, je t'avais raconté cette anecdote, et on avait finalement transcrit ce truc-là à la radio en faisant le Tristesse Social Club.
Voilà, et on avait animé une émission Nuit Noire qui partait de ce principe-là un petit peu, où on était avec Ronan, Max, toi et moi, et chacun avions apporté quelques chansons un peu tristes comme ça. Et parmi les chansons que tu avais apportées, il y avait une chanson de Jacques Bertin.
Ouais, il y avait Portrait d'Aude, qui est en fait la première chanson que j'ai écoutée de Jacques Bertin de ma vie. En fait, Bertin, j'ai découvert un peu par hasard, mais déjà grâce à Ferré, ça fait encore plus sens de faire cette émission dans le cadre du Ferré Club. En fait, je cherchais à l'époque des albums de Ferré que j'avais pas et que la médiathèque dans ma vie n'avait pas non plus. Et alors, j'ai cherché sur Internet, quoi. Et j'ai un pote qui m'a dit, tu devrais les regarder sur ce forum russe. Il y a des trucs, vraiment, on trouve de tout, quoi. Et j'étais sûr, un forum russe, Léo Ferré, bon... Comment on écrit Léo Ferré en cyrillique, déjà, je sais pas, tu vois. Et bon, alors j'avais tapé Léo Ferré, machin. Et alors j'avais trouvé ce que je cherchais en plus. Et dans les résultats, il y avait tout un sujet sur un type qui s'appelle donc Jacques Bertin. Et j'avais jamais lu ou entendu ce nom-là, donc j'ai cliqué. En fait, Bertin a fait des reprises de Ferré, on en parlera tout à l'heure.
On a commencé l'émission avec l'une d'entre elles.
Et ben ouais, il y a eu Les Temps Chimériques, c'est vrai que... Je crois que Bertin a déjà dit en interview que c'était une des plus belles chansons de Ferré pour lui. Et il y a le bateau espagnol, l'affiche rouge. Fin. Et alors, donc ça me renvoyait sur ce type, quoi. Et il y avait une grosse partie de sa discographie. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais tout télécharger. Donc je clique sur le lien, machin. Et puis après, j'arrive dans mes fichiers. Il y a plein d'albums. Tu connais rien, t'as pas de prise, quoi. Alors c'est classé par ordre chronologique, donc la logique aurait voulu que j'aille écouter le premier album. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je foutais, mais j'ai cliqué sur un album de 74 qui s'appelle À Besançon. Et j'ai écouté en premier cette chanson qui s'appelle donc Portrait d'Aude. Et qui est une chanson... Moi, aujourd'hui encore, ça reste... Ça reste le morceau que j'écoute le plus de Jacques Bertin. Peut-être parce que c'était le premier. Tu sais, toujours les premières, ça reste en tête, quoi.
Bien sûr.
Et en même temps, je trouve qu'il y a une sorte d'élégance et d'étrangeté dans cette chanson qui est assez folle, quoi, assez inédite. À la fin, elle se termine par un la-la-la relativement long par rapport à la chanson, parce que la chanson dure à peine 2 minutes. Enfin, 2 minutes et quelques. Mais c'est pas du tout le la-la-la commercial que les chanteurs mettent pour combler ou juste pour que tu retiennes la mélodie. C'est un la 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 évolutif, enfin c'est une sorte d'onomatopée qui part un peu. Moi j'avais jamais entendu ça en chanson. T'as des la 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 mais qui sont toujours les mêmes, tu vois. Et alors je me suis dit, waouh, ok, c'est quoi ce truc? Donc j'ai commencé à tout écouter. Bon, il y a des morceaux que j'ai passé un peu vite. Et tu sais, avec une soif en plus d'écouter. Tu dis, ok, là, je suis tombé sur un truc. Je regardais sur Internet en même temps. T'as une pauvre page Wikipédia, tout le monde s'en fout. Enfin, je te parle de ça, on est en 2010, je crois. Mm-hmm. Et il n'y avait pas grand-chose sur YouTube. même vraiment pas grand-chose. Il y avait 2-3 morceaux dans mon souvenir. Donc j'en ai mis sur YouTube aussi pour les partager. En fait, pour les envoyer à mes potes d'abord. Pour leur dire, eh putain, tu connais Jacques Bertin? Ah, tu connais pas Jacques Bertin? Ah bah attends, écoute, Portrait d'Aude, Jacques Bertin, c'est incroyable.
Tu sais, on peut faire comme si on s'adressait à un de tes potes là et puis proposer d'écouter, non?
Écoute Jacques Bertin, écoute Portrait d'Aude.
Elle rentrait tôt chez elle pour s'installer dans son rêve. Elle voyait peu de monde, elle avait tant de choses à rêver. Elle sortait rarement avec une ou deux amies d'enfance. Après 5 ans, elle ne savait pas s'orienter dans Paris. Le temps passa, elle allait maintenant sur la trentaine. Elle avait épuisé le champ merveilleux du rêve. Elle rêvait moins. Elle voyait peu de monde. Elle sortait rarement. Elle faisait de longues journées. En s'endormant, elle dessina un sourire. J'ai quitté doucement son corps dans ma chaleur collée. C'était du côté de la place d'Italie, des ruines du vent, des chantiers. De loin, on voyait dans la nuit sa fenêtre éclairée. La, 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 la.
Très d'eau d'un instant même dans le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste. Et alors dans cette chanson, Guillaume, je trouve, moi qui ne connaissais pas du tout Bertin avant que tu m'en parles, et je dois dire que pour préparer l'émission, alors tu m'avais donné quelques disques, quelques repères discographiques pour m'orienter, pour découvrir son œuvre, ce que j'avais négligé de faire jusqu'à présent, je te le cache
pas.
Et pour préparer un petit peu cette émission, je me suis un tout petit peu plus plongé dans son œuvre. Et dans cette chanson, Portrait d'Aude, mine de rien, il y a des traits que je retrouve dans, pour moi qui ne connaissais pas du tout son œuvre, des traits que je retrouve dans bien des chansons. D'abord, un personnage, entre guillemets, une notion récurrente dans son œuvre, c'est la nuit.
Carrément.
Il parle énormément de la nuit tout au long de son œuvre, je trouve. Tu l'as constaté aussi.
Ouais. T'as beaucoup de chansons en effet nocturnes.
Oui, le sujet n'est en lui-même.
C'est
pas
la
nuit,
nuit,
mais la nuit.
Mais
est
par
là,
contre, ça y prend place, ouais. Et c'est ça que je trouve assez fort aussi dans l'écriture de Bertin. C'est la qualité d'évocation, enfin la force d'évocation qu'il y a dans ces textes. Tu vois, dans Portrait d'Aude. Parle d'une femme, une jeune femme, tu vois, on sait pas qui c'est, on s'en fout, on comprend que ça a été l'amante, en tout cas un moment du narrateur, enfin du chanteur. Mais tu vois, enfin, je sais pas, moi je vois la meuf, quoi. Et c'était près de la place d'Italie, des ruines et devant des chantiers. Le soir, dans la nuit, on voyait une lumière allumée, enfin, je sais pas, tu vois le truc, tu vois les grands ensembles, tu veux. Et c'est à la fois très simple, c'est-à-dire qu'il cherche pas à faire. En tout cas, dans ce morceau-là, des métaphores, des, tu vois, il expose des situations, des images comme ça qui s'enchaînent. Et c'est vrai que beaucoup de chansons se passent pendant la nuit, ou alors c'est nous qui avons un biais et en fait on remarque que ça. Mais c'est vrai qu'il y en a un paquet. Il y a cette très belle chanson qui s'appelle La lampe du tableau de bord, qu'on peut peut-être écouter après d'ailleurs.
Ouais,
je sais pas ce que t'en dis.
Si tu veux, avec plaisir.
Où t'es avec un type comme ça qui conduit la nuit et une femme à côté de lui dort, quoi. Bon, Et c'est propice, tout au long de la chanson, à la fois... tu sais pas trop, c'est des souvenirs, c'est ce qu'il observe. Il y a l'histoire avec cette femme aussi. Et le voyage en lui-même, quoi. Mmh. Et il y a des... Tu vois vraiment l'ambiance du type en voiture, la nuit, en train de fumer sa clope ou je ne sais quoi, d'écouter la radio, enfin perdu dans ses pensées en tout cas, et qui file sur une nationale là, sans lumière à part celle de ses phares. C'est une image un peu, pas d'Épinal, mais bon, tu vois, qui a déjà été montrée, écoutée plein de fois. Et malgré tout, je trouve qu'il lui donne une vigueur et une sorte de jeunesse, parce que justement il cherche pas à expliquer ce que c'est être dans la nuit, quoi.
La lampe du tableau de bord, c'est mon étoile du nord, je vais très loin. Auprès de moi tu dors, où je suis seul, où tu me parles, mais si loin. Je ne sais plus que les Gauloises avec les allumettes et le silence. Je ne sais pas où je t'emmène, où nous arriverons. Je ne sais pas, j'ai avec moi toute ma nuit, ma peur. Toutes les filles que j'aimais, tous les amis perdus, la route est longue. Mon amour, il est toujours très tard et c'est toujours la nuit qui tombe. Je fonce dans le noir avec de loin en loin l'appel des phares, les amis. Mon amour, la nuit glisse, il n'y a plus personne sur la route que la pluie. J'ai oublié la carte, je ne sais jamais les règles du jeu, mais qu'importe. Je ne sais pas où je t'emmène. Où nous arriverons, je ne sais pas, j'ai avec moi toute ma nuit, ma peur. Le pleur des veuves immobiles au coin de leur maison, la route est longue. Mon amour, il est toujours très tard et c'est toujours la nuit qui tombe. Une folle a couru vers moi, les bras très blancs, le visage de chien. J'ai vu de grands désespoirs d'enfants qui venaient boire dans mes mains. Et les femmes traquées dans les alcôves se taisent et s'inquiètent. Je ne sais pas où je t'emmène, où nous arriverons. Je ne sais pas. J'ai avec moi toute ma nuit, ma peur. Dans les phares, j'ai cloué la peine d'un Christ inconnu. La route est longue, mon amour, il est toujours très tard et c'est toujours la nuit qui tombe. Un matin, nous arriverons, réveille-toi, dans un café glacé, un village désert. Il y a des sanglots, des rêves sur les prés abandonnés, la vie des gens. Des enfants qui vont à l'école et l'écharpe nouée des amitiés qui s'envolent. Je ne sais pas si c'est le jour ou le ciel ou la vie. Je ne sais pas. Fait grand clair et je m'en vais dormir. Il ne me reste rien que mon amour, tout fatigué, tout triste, et quelque chose, mais si peu, un lièvre roux qui courait dans les phares.
La lampe du
tableau de bord.
À l'instant, Jacques Bertin. Et tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette chanson ?
Bah non, mais pas. Oui, j'aurais plein de choses à dire. En fait, tu vois, enfin, je trouve qu'elle résume à la fois ce qu'on disait, toi, sur la nuit, c'est-à-dire que c'est vraiment le décor, en même temps les parties prenantes du truc, mais c'est une succession de d'images qui décrit, tu vois, mais encore une fois ils disent ce qu'ils voient, c'est-à-dire que les femmes, les enfants au bord de la route, un lièvre roux qui traverse les phares. Il n'y a pas d'effet de manche. Il n'y a pas d'emphase. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, je trouve, dans son écriture, c'est que à la fois c'est extrêmement lyrique et tout à fait de manière assumée et revendiquée, même dans ma manière de chanter. Et pour autant, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je ne suis pas professeur de littérature de littérature comparée, donc je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recherche de la belle phrase pour autant. En fait, ça, qu'est-ce qui fait qu'un vers fonctionne ou pas, mais ça fonctionne, mais pour autant, et c'est sûrement pourtant une écriture très travaillée, mais qui sont assez dépouillées malgré tout.
Il y a pas de grandiloquence dans sa façon de s'exprimer.
Pourtant, il y a des morceaux où vraiment il chante, il scande, enfin.
Ouais, et puis il y a des, pardon de t'interrompre, mais il y a aussi des moments de poésie qui sont vraiment très travaillés, mais pourtant avec des mots très simples.
Exactement, ouais. Mais ça, c'est le plus dur à faire, non?
Probablement.
Je crois que sans chercher un vocabulaire propice à partager une émotion dite poétique, tu vois, je sais pas ce que c'est, tu vois, mais juste de le quotidien, moi, ce petit jeu-là, je trouve, dans son écriture, voilà, s'il faut balancer des références de poètes, et c'est, en plus, c'est des types que j'aime bien. Moi, il me fait penser à Cesare Pavese, que Ferré a, et encore un point commun, Ferré a mis en chanson avec L'Homo Solo, et à Jacotet. Philippe Jacotet, qui est mort il y a quelques années, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui était très vieux. Et je trouve qu'il y a à la fois ce même regard sur la nature, sur le monde qui l'entoure, et en même temps d'une subjectivité qui est toujours présente, qui ne s'efface pas, mais qu'on ne fait pas le jeu et pas, finalement, prend pas le dessus sur le tableau qui est décrit.
Ouais, c'est
et ça que je trouve très très fort chez Bertin. Tu vois, dans cette chanson, La langue du tableau de bord, il y a cette phrase, il est toujours très tard et c'est toujours
la nuit qui tombe.
La nuit qui tombe. Il la répète 2-3 fois. Je crois que c'est une des rares fois où il y a a fait office de refrain.
Ouais.
C'est une des rares fois où il y a un refrain dans cette chanson.
Ouais,
je les connais pas toutes par cœur. Il doit y en avoir d'autres évidemment, mais c'est assez rare qu'il répète une phrase ou un morceau, un thème en tout cas comme ça. Ouais. En même temps, j'avoue qu'elle est assez superbe cette phrase. Donc,
elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Et on retrouve, une des choses, voilà, qui me plaisait aussi dans la chanson Portrait d'Aude, qu'on retrouve dans celle-ci, dans La lampe du tableau de bord, et qu'on va retrouver dans d'autres chansons, c'est que c'est vraiment très dépouillé d'un point de vue musical, c'est vraiment très simple, ça permet aussi de mettre le verbe en avant, de mettre sa poésie en avant, et en même temps, quand tu prêtes une attention un peu, quand tu vraiment fais gaffe aux intentions musicales qui sont derrière tout ça, tu te rends compte que c'est quand même très travaillé, c'est très simple, mais en même temps, il y a de vraies intentions de jazzy, il y a quand même une vraie patte quand même derrière.
Et ouais, c'est pas parce que c'est épuré que c'est juste pour faire joli, quoi.
Voilà, exactement.
En fait, c'est assez ces dispositifs et ces arrangements musicaux, surtout finalement, dans les premiers albums. Plus tard, il y aura des albums qui seront beaucoup plus produits, orchestrés en tout cas. Là, il y a une sobriété.
Sobriété,
il y a des morceaux où il est tout seul à la guitare, d'autres où il s'accompagne, on l'a entendu dans Portrait d'Aude, à la flûte. Il y a des musiciens de studio en fait qui travaillent avec lui. Mais malgré tout, ces arrangements très sobres, en fait, ils viennent toujours souligner la voix. Et c'est pas... Tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il avait un peu traversé les époques avec... l'envie de faire de la chanson telle que lui l'entendait, telle que son idée de la chanson. Mais il y a ce truc-là que la voix passe jamais au second plan. C'est un chanteur, en fait. C'est un chanteur de premier plan. Toujours la voix devant. Et la musique, pour autant, en effet, t'as raison, elle est pas du tout négligeable. C'est pas juste une lecture d'un poème où on aurait mis une guitare, une harpe, histoire de faire joli. Non, il y a une vraie intention musicale. Et d'ailleurs, il y a des thèmes qui sont repris, qui reviennent, qui parfois reprennent la mélodie de la voix, parfois s'en détachent totalement. Mais tout ça fait une harmonie, encore une fois, très simple, mais diablement efficace, quoi.
On peut peut-être citer deux musiciens qui seront particulièrement fidèles à Jacques Bertin tout au long de sa carrière. Le premier, c'est Didier Levallet, qui est à la contrebasse et à la basse, qui effectivement dans un décor dépouillé, un peu jazzy, la basse et la contrebasse, c'est quand même un élément assez important, ne serait-ce que d'un point de vue rythmique. Et un autre musicien qui va aussi l'accompagner très régulièrement tout au long de sa carrière, c'est Siegfried Kessler, qui est un pianiste et qui va également jouer de la flûte, et puis d'autres instruments. Je n'ai pas noté précisément lesquels. Peut-être le sais-tu, Guillaume, non?
Non, comme ça, j'ai pas en tête, mais je sais qu'ils ont fait un album, enfin, il y a un album enregistré en live dans les années 80, où l'album s'appelle d'ailleurs Jacques Bertin avec Didier Levallet et Kessler. Tu vois, on passe de musicien de studio, ah, en fait, des musiciens de premier plan aussi, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, on travaille ensemble.
En trio.
Et en trio, c'est un live en plus, donc finalement, sur scène, on est trois, il n'y a pas que Jacques Bertin sur scène. Il n'y a pas de raison que vos noms n'apparaissent pas au même titre que le mien sur la pochette, à l'avant de la pochette, quoi. Mais au-delà de dire une position éthique ou quoi que ce soit, ça montre aussi que l'importance que la musique a malgré tout, comment lui l'envisage, que c'est pas juste de l'accompagnement. À partir du moment où tu mets des musiciens en avant, en plus tu prends des types qui savent ce qu'ils font, quoi. Enfin, c'est pas des manchots. Ouais. Bah, tu redis que le chanteur, la chanson, c'est des textes, une voix et des musiciens derrière, quoi. De la musique en tout cas.
Malgré tout, oui, quand même.
Ouais, mais parfois faut le rappeler.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais,
clairement. Parmi les autres musiciens avec lesquels il a travaillé, il y a un musicien qui s'appelle Mino Sinelou, et il va travailler avec lui en 1977 sur l'album Domaine de Joie. Ça dit quelque chose cet album, Domaine de Joie? Et voilà, c'est un musicien que j'aime bien, donc je voulais le citer. Tu sais, on va donner peut-être quelques repères biographiques de Jacques Bertin à nos auditeurs et auditrices, là, mais on va peut-être avant passer une petite chanson parmi celles que tu nous as choisies pour l'émission de cette semaine.
Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Oh, bah, écoute, je te laisse faire parce que, tu sais, je ne connais pas encore assez bien. On aura tout à l'heure deux ou trois chansons qui nous ont un peu... qui ont retenu notre attention à tous les deux, et on en parlera peut-être de manière un peu plus longue à ce moment-là, mais là, je te laisse vraiment choisir ce que tu veux.
Alors, dans ce cas, peut-être qu'on pourrait passer « Je voudrais une fête étrange et très calme ».
Je voudrais une fête étrange et très calme, avec des musiciens silencieux et doux. Ce serait par un soir d'automne, un dimanche, un manège très lent, une fine musique, des femmes nues assises sur la pierre blanche se baisse pour nouer les lacets des enfants, en ruban et qui tirent des cerfs-volants blancs. Les femmes fredonnent un peu leur tête penche. Je voudrais d'éternelles chutes de feuilles. L'amour en un sanglot, un sourire léger, comme on fait entre ses doigts glisser des herbes. Des femmes calmement éperdues, allongées, des serpentins qui voguent comme des prières. Une danse dans l'herbe et le ciel gris très bas, lentement. Et le blanc et le roux et le gris et le vert. Et des fils de la Vierge pendent sur nos bras. Et mourir aux genoux d'une femme très douce. Balançoires vont et viennent des appels. Doucement, sur son ventre lourd, poser ma tête. Et parler gravement des corps, le jour s'en va. des dentelles, des tulles dans l'herbe, une brise. Dans les haies, des corsages pendent des nylons, des cheveux. Balance mollement, on voit des nuques grises. Et les bras renvoient vaguement de lourds ballons.
Radio Libertaire 89.4 FM, la voix de la Fédération Anarchiste, www.radio-libertaire, etc. À l'instant même, nous venons d'écouter Je voudrais une fête étrange et très calme, qui est l'ouverture de son troisième album, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Paru en 1970 chez les disques Alvarez.
T'as raison, ça jazz en fait.
Ouais, ça jazz un
peu.
Hein.
De manière un peu académique malgré tout, tu vois, mais ça.
Ouais, bien sûr, mais en même temps, tu vois, il y a quand même une vraie volonté musicale derrière quand même.
Ouais, et puis, je sais pas, moi je me dis. Tu vois, c'est des textes qui sont relativement denses en général dans ces chansons. On n'est pas du tout sur la chanson minimaliste ou je sais pas quoi. La musique, elle vient aussi parfois aérer un petit peu. Tu vois, elle vient donner une respiration à la fois pour le chanteur et pour l'auditeur aussi. Ce qui permet de détacher des morceaux où t'entends vraiment ce qu'il dit, quoi. Et tu percutes sur ce qu'il raconte. C'était le cas dans La Lampe du tableau de bord. C'est le cas dans Portrait d'autre qui est très lente. Et dans Je voudrais une fête étrange et très calme aussi. Où à chaque fois qu'il parle, la musique arrive derrière.
Voilà, une vraie réponse.
Un thème musical, ouais.
Et puis voilà, une vraie variété aussi, hein, de la flûte, de l'orgue. Mmh. Il y a aussi une vraie volonté d'être là, musicalement, quoi. Un vrai truc, quoi.
Je sais pas comment il travaillait, toi, pour l'enregistrement de ses morceaux. Est-ce que il y avait une part d'impro pour la musique? Je pense qu'il partait des textes. Peut-être que je me fourvoie, mais...
Ouais, il y a des chansons,
j'ai l'impression, ouais. Et après, avec ces musiciens, ouais, je sais pas.
Quelle liberté il leur laissait.
Ouais, qu'est-ce qu'il écrivait lui en amont, qu'est-ce qu'eux écrivaient, qu'est-ce qui se passait.
La plupart des mélodies, il les signe quand même, hein,
ouais.
Je crois.
Ouais. Alors, ouais. Je sais qu'il a quand même travaillé avec des musiciens, compositeurs, arrangeurs. Notamment quand... Je sais que dans les années 80, il fait une reprise de... Enfin, il fait une adaptation, c'est pas une reprise. Il fait une adaptation, une mise en chanson de L'Invitation au voyage de Baudelaire. Mmh. Et il me semble avoir lu, il y a quelques temps, que c'était pas lui qui signait la musique. C'était un de ses amis musiciens qui l'avait aidé, surtout. Et qui voulait en faire autre chose que les versions qui avaient déjà été faites. Que ce soit dans le... du côté du chant lyrique, entre guillemets. Ou ce que Ferré a fait aussi avec Baudelaire. Et sa version est pas mal, d'ailleurs. Elle est différente de celle de Léo, en sens où elle est moins suave, moins sensuelle, peut-être. Mais elle donne ça. C'est toujours étonnant, les mises en chanson, quand elles sont réussies comme ça. C'est que ça te donne une autre perception de ce qui est dit. Bien avec une façon de chanter une musique différente.
Tu veux dire deux versions différentes, ouais. D'un même poème?
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Sans dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou pas, toi, c'est pas le propos, mais par contre, elles sont pas entendues de la même façon.
Alors, je voudrais en parler un peu plus tard. Il me semble que c'est dans une interview qu'il accorde à Claude Frigara dans les années 80 qu'il parle justement de L'Invitation au voyage. Je crois qu'il dit un mot justement et qu'il cite le musicien qu'il. Compose.
Et ouais, c'est possible que ce soit dedans. C'est peut-être là que j'avais entendu. Ouais.
Ouais. Alors
je me souviens pas du nom.
Je passe. Oui, moi non plus. Mais on pourrait chercher.
On pourrait chercher, ouais, pour essayer de pas passer pour des ânes.
Ça va être assez vite à trouver. Mais on passe le salut amical à Claude et on reparlera de cette interview un peu plus tard parce que justement il dit quelques mots sur Léo dans cette interview.
Ouais, ouais.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté, des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir tes moindres désirs qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants décorent les champs, les canaux, la ville entière. Hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté.
La radio libertaire, voilà.
On peut peut-être donner quelques repères biographiques concernant Jacques Bertin pour nos auditeurs et auditrices, savoir à peu près de qui on parle, à quelle époque il se situe. Il faut savoir qu'il est toujours vivant, la première.
Toujours vivant, ouais.
Il est né le 17 octobre 1946 à Rennes. Il s'installe à Paris en 67 alors qu'il est étudiant en journalisme.
Ouais, et puis il se lance en même temps... dans la chanson.
Et il se lance dans la chanson à ce moment-là, hein. Donc il a 20 ans, on va dire, en 67, il est de 46, on sait pas précisément de quand date l'apparition de son album.
Ouais, enfin, 21,
peut-être, hein. Enfin, en tout cas, il a 20 ans. Premier album, sous-intitulé Corentin, parce qu'il a pas vraiment de titre.
Oui, mais... l'album, officiellement, s'appelle Jacques Bertin. Après, t'en as, je crois que dans sa discographie, je les ai notés, là, tous les albums. C'est assez amusant, t'en as, 1, 2, 3. Allez, ouais, au moins 3, si ce n'est 4, qui s'appellent Jacques Bertin.
Oui, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup.
Oui,
hein, de
oui,
pas
oui
mais
on donnait des numéros à ouais. Posteriori, quoi, après.
Un ouais. peu de la même manière Gainsbourg, que Gainsbourg, ouais. Voilà. Et...
Brassens aussi, ouais.
Voilà.
Et donc, oui, Corentin, qui est le morceau qui le fait un peu connaître à l'époque, pour ce disque, il remporte le Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
Ouais, ce qui est pas rien, quand même.
Ce qui est pas rien, ouais, surtout pour un premier album.
Ouais,
et surtout l'importance du prix à l'époque, quoi. Enfin, c'est-à-dire que
voilà.
Le prix existe toujours aujourd'hui. Il a sûrement son importance d'un point de vue financier. Enfin, pour les financeurs, en tout cas, je sais pas, ça rapporte beaucoup aux artistes, mais pour les tourneurs, pour trouver des dates, pour enregistrer, pour continuer à le faire, en tout cas. Mais à l'époque, ouais, ça a une vraie plus-value.
Ouais, clairement.
Ça t'assied. C'est censé t'asseoir un petit peu dans la chanson, quoi. Cosimon l'a eu dans les années 70 pour un album avec ses chansons, tu vois. Alors Cosimon, il était déjà un peu connu, un peu.
Ouais, il avait pas 20 ans.
Et donc, ouais, à 20 ans, c'est quand même pas rien de l'avoir.
Ouais, clairement.
Et puis, malgré tout, bon, alors il goûte un petit peu, hein, au succès minime. C'est un succès. Succès critique, il y a quand même pas mal de concerts, mais rapidement il va s'éloigner du sérail, du show business, Je sais pas qui s'éloigne en premier, d'ailleurs. C'est du fait que ça ne fonctionne pas, ou si c'est vraiment une volonté, je pense que c'est ça d'ailleurs, hein, ou une absence de volonté plutôt de répondre aux exigences des maisons de disques, de « il faudrait plutôt que tu chantes comme ça, ce serait bien si tu faisais ça, ah tu sais, ça évolue. »
Il n'a pas l'air du genre à être trop enclin à répondre à ce genre de...
Ouais, bah en tout cas, quand t'écoutes sa discographie, c'est vrai qu'il y a... Il y a une cohérence, quoi. Non pas que ça n'évolue pas, c'est pas vrai. En 55 ans de carrière, forcément, tu fais des choses différentes, quoi. Il y a des types, hein, qui font toujours... Les mecs qui écrivent le même livre en 50 ans, quoi. Modiano, il a toujours écrit le même bouquin, quoi. Mais non, t'as des choses qui... Même la façon de chanter, la voix, bien sûr, évolue. Les arrangements, on l'a dit aussi. Mais par contre, ouais, il est resté fidèle à l'idée qui se faisait de la chanson, ce que c'était une chanson, une manière de chanter, d'écrire aussi, et d'orchestrer derrière. Mmh. Et ça donne, ouais, ça donne une grosse vingtaine, 25 albums, je crois, environ 25 albums, avec des lives à l'intérieur. T'as des lives au Café de la Danse, au Théâtre du Gymnase, au Théâtre de la Ville aussi à Paris.
Voilà, et puis donc, que dire, il est parisien un certain nombre d'années, il continue à exercer son métier de journaliste un petit peu dans la revue Politis, et voilà, et donc tu me disais tout à l'heure, ce que je ne savais pas, c'est qu'en 2022, il a pris la décision d'arrêter, quoi.
Moi je trouve ça quand même fabuleux, en 2022, enfin fabuleux, faut pas non plus trop romantiser, je pense qu'il a des soucis de santé, mais il prend la décision d'arrêter, en fait, de prendre sa retraite. Et c'est un truc qu'on oublie un peu, que les chanteurs peuvent prendre leur retraite, parce que tous les chanteurs auxquels on pense instinctivement, enfin moi en tout cas, hein, mais ces chanteurs, tu sais, un peu pas star, mais grand public, quoi, tu vois. Et ils arrêtent jamais, quoi. Michel Sardou, ça fait 50 ans qu'on attend qu'il prenne sa retraite, mais il ne le fait pas, quoi. Il y a toujours un dernier concert, il y a toujours un dernier album, une dernière tournée, enfin, ça n'arrête jamais, et même quand ils sont mal en point. Après, voilà, faut savoir que c'est un type qui écumait les routes toute l'année, enfin, une bonne partie de l'année, il était en concert, partout, toute la France. Donc, c'était à l'économie moyen, quoi, tu vois, il était avec sa caisse, sa valise avec les CD qu'il allait vendre à la fin du récital. Et ça, je peux comprendre aussi que c'est usant au bout d'un moment. Et puis c'est un monsieur qui a un peu plus de 70 ans, enfin, tu fatigues,
oui,
quoi, c'est normal. Mais donc oui, il a pris sa retraite, mais il est toujours en vie. Et tu disais, il a quitté Paris en 2003, en fait, c'est quelqu'un aussi qui, quand t'écoutes ses chansons, qui chante beaucoup, alors il est né à Rennes, mais il chante beaucoup la Loire.
Oui.
T'as beaucoup de chansons autour de la Loire, du Maine-et-Loire, t'as des villes qui sont citées, Chalonnes.
C'est là-bas qu'il s'installe, hein, je crois.
Ouais, exactement. Ouais. Louvigné du désert, dont on parlera tout à l'heure, alors qui est plus haut, hein, c'est encore la Bretagne, c'est en allant sur le Mont Saint-Michel, ou c'est déjà la Normandie, je sais pas, je vais pas faire de conflit territorial. Mais t'as un ancrage géographique dans cet ouest-là, assez fort dans ces chansons. Et toi, tout à l'heure, on parlait dans ces textes de célébration de la nature. En tout cas, la nature est aussi souvent présente. C'est une nature qui existe, quoi. C'est pas seulement une idée de la nature, un peu fantasmée comme ça.
Tu parlais de Louvigné du désert, moi ça me dirait bien de l'écouter.
Ah ben Louvigné.
Alors tu vois, c'est une chanson qui m'a marqué lors de ce travail d'écoute, de travail même pas d'ailleurs, mais dans ces moments d'écoute que j'ai passé avant de préparer cette émission. Vraiment, c'est une des chansons qui m'a vraiment percuté. Il y en a deux, trois autres qu'on écoutera probablement dans l'émission. Mais celle-ci, comme je te disais dans un mail que je t'ai envoyé justement en disant « Waouh, Louvigné du désert quand même !» C'est un peu peut-être, son pauvre Ruteboeuf un petit peu. Chanson sur l'amitié, sur le temps qui est passé, sur ses amis, sur ses distances qui se sont faites avec le temps, etc.
Ouais, mais je suis content que tu me dises ça. C'est vrai que j'avais pas fait la comparaison entre Louvigné ou d'autres chansons et chansons de Léo. Enfin, il y en a pour lesquelles c'est assez évident, entre guillemets. Je sais pas si on l'écoutera. Moi, c'est pas une chanson que j'affectionne particulièrement. Après, elle a le mérite d'exister. Je pense qu'elle est courageuse. Mais il a fait une chanson qui s'appelle Ambassade du Chili. Mmh. Au même moment où Ferré, finalement, fait Allende, quoi. Et il y a des choses qui se répondent comme ça. Mais tu vois, quand tu m'as écrit, ouais, c'est un peu son pauvre Ruteboeuf, je l'ai réécouté. Et en fait, je trouve ça hyper pertinent. Il y a une phrase qui dit au début de la chanson, qui dit « Aux amis évanouis, déjà perdus parmi les ombres ». Et en fait, c'est exact. Enfin, toi, en une phrase, tout est résumé, quoi. C'est ces amis perdus, mais ces amis qui sont malgré tout toujours là, parce qu'on parle encore d'eux. Ouais, c'est une sacrée belle chanson. Et alors, pour l'anecdote, c'est assez marrant parce que cette ville, Louvigné du désert. Enfin, avant d'écouter cette chanson, je savais pas où la situer sur une carte, quoi. Et donc, c'est pas trop loin du Mont Saint-Michel, visiblement. Et Bertin, dans une interview, racontait que il était déjà passé en voiture quelques fois, quoi. Et un jour, il s'est arrêté pour déjeuner. Et il a écrit cette chanson, mais il n'est jamais retourné. Et alors, les gens lui disaient, mais alors, le Louvigné du désert. Vous allez souvent, bah non, jamais, quoi. Mais j'adore le nom de cette ville, quoi. Je trouve ça Louvigné du désert. C'est vrai que c'est un nom de ville assez chouette. Ça, y a un truc. Ça rend curieux, en tout cas. C'est vrai que t'as envie d'aller y faire un tour. Il paraît que c'est pas si mal, d'ailleurs. Des années plus tard, il a fait un concert pour la première fois à Louvigné du désert. Et j'imagine qu'il a dû la chanter.
Louvigné du désert, arrêtons-nous, nous irons boire. Dans un petit café ouvert au premier froid de ma mémoire. Aux amis évanouis, déjà perdus parmi les ombres. À ce que j'aimais tant, je crois, et que j'ai oublié. J'inviterai quelques poètes pour faire un bel enterrement. Quelques octosyllabes et je suis seul pour arroser l'événement. Nous raconterons l'histoire en parlant un peu lentement. Du temps qui s'en va, de l'oubli qui devant nous fait la musique. Et puis nous nous contenterons de peu de choses, un peu de vin. Un mot qui frôle l'herbe du soleil, et c'est en vain. Je n'ai d'amis que les poètes, et je m'en reviendrai chez moi par les chemins. Comme une cigarette éteinte, rallumée, et qui s'éteint.
Radio Libertaire 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître. Louvigné du désert à l'instant même, dans cette émission Le Ferré Club qui est consacrée à Jacques Bertin. Avec toi Guillaume aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir.
Ben moi aussi je suis très content d'être avec toi, d'être avec vous, et de parler, d'écouter Jacques Bertin ensemble. Et ouais, Louvigné du désert, bon bah tu vois, c'est assez fou quoi, comme évocation. Toi, donc à la fois de cette ville... un peu paumé au milieu de nulle part, ou dit allez viens on s'arrête, on va boire un coup, et en même temps c'est propice à évoquer les copains disparus. Et toi, tu comparais ça à Pauvre Ruteboeuf, on peut penser à Richard aussi, ouais. chez Léo, devant la glace du comptoir. Et mais chez Bertin, c'est vrai qu'il y a, je trouve, il y a beaucoup de chansons où il fait référence, ou en tout cas il est question d'amitié soutenue, prolongée, enfin toujours existante, toujours vivante, morte parfois ou disparue. Et c'est un truc qui est assez illustratif en fait de sa propre expérience en tant que chanteur lui, puisque en fait il était, donc on l'a dit, bon il fait une carrière en dessous des radars. à sa façon, quoi. Il n'était pas tout seul à le faire. Il avait des amis, des chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes aussi, qui ont fait la même chose. Alors, on peut les citer, parce qu'il s'appelait La Bande des Cinq. C'est un album qui existe où tu as deux morceaux ou trois morceaux chacun, je ne sais plus exactement. Tu as Jean-Max Brua, Jean-Luc Juvin, Gilles Elbaz, et Jean Vasca. Et Jean Vasca dans les... Bon, et Bertin, bien sûr. Et Jean Vasca dans les quatre autres apparaît aujourd'hui peut-être comme le plus connu.
Ah oui.
Et,
tu vois, c'est le seul nom qui me dit, qui évoquait quelque chose.
Ouais, mais tu vois, mais... moi, j'ai écouté un peu Jean-Max Brua. Il y a une chanson sur le Jardin des Plantes de Jean-Max Brua qui est assez incroyable, que je vous conseille d'aller écouter. Mais Gilles Elbaz, j'ai écouté un petit peu Jean-Luc Juvin. J'ai dû écouter, mais je me souviens pas, tu vois. Et tu trouves relativement peu de choses. En tout cas... ces cinq comparses là qui étaient donc qui exerçaient le même métier, la même profession, dans les mêmes conditions, partageaient aussi le verre de l'amitié, quoi. Enfin, en 77, ils se retrouvent chez Vasca dans sa maison, tous les cinq, pour parler et réfléchir à propos de la chanson. Et c'est assez étonnant comme, je trouve, comme démarche, en tout cas parce qu'elle a été enregistrée, cette conversation. Et en fait, ça a été restitué dans un livre qui s'appelle « Des hommes qui chantent », qui est écrit par Bruno Boulet, à partir de l'enregistrement qui a été fourni par Jacques Bertin, d'ailleurs. Et c'est ce livre « Des hommes qui chantent » qui est disponible aux éditions Valada, voilà, si vous voulez vous le procurer. Il restitue donc cet entretien où à la fois ils réfléchissent à ce que c'est la chanson, profondément, quoi. Qu'est-ce que c'est une chanson? Est-ce que du disco, c'est la chanson, quoi? Je suis pas sûr qu'ils abordent la question du disco, mais c'est pour illustrer le truc. Ils réfléchissent au métier, donc aux conditions d'exercice du métier, au show business, au public, aux thématiques que tu peux aborder, comment les aborder. Enfin, en fait, il y a une discussion un peu à bâton rompu au long cours où chacun y va de ses, à la fois de son expérience, et en même temps, ces pistes, ces réflexions, quoi. Et c'est vrai que une mise en commun d'idées, de réflexions de gens qui font le même métier après celui de la chanson, j'ai pas trop d'exemples autres à donner. On parlait encore tout à l'heure de la discussion Brel-Brassens-Ferré, qui est mythique parce qu'il y a cette photo, mais la conversation en elle-même parle assez peu de chansons, elle tourne un peu autour du métier, mais pas tant autour de la chanson. Et voilà, donc ces cinq types qui refusent tout autant le show business les uns que les autres, et qui parlent de chansons, je trouve ça assez, assez chouette quand on s'intéresse justement sur les modalités d'exercice de la chanson.
Oui, et puis de les penser en commun, d'essayer de réfléchir sur cette question ensemble avec un peu d'expérience aussi, parce que tu me dis c'est en 77.
Ouais.
Donc il a déjà une dizaine d'années quand même derrière lui.
T'as 10 ans de carrière déjà.
Ouais. Donc voilà.
T'as 10 ans de carrière et c'est beau parce que c'est un métier qui se fait. Alors pas forcément seul en scène, on le disait tout à l'heure, t'as des musiciens, mais en tout cas, c'est ton nom quoi qu'on met sur... Il y a peu de tournées communes, il y en a, mais c'est assez rare.
Et pourtant, ils ont fait un disque en commun, alors tu disais.
Ils ont fait un disque en commun, ouais.
Ça, c'est original aussi, parce qu'en général...
Mais qui est un disque de... Ah, je vais pas me fourvoyer, mais il me semble que c'est un disque avec des chansons préexistantes.
D'accord.
Où ils mettent
de chacun.
Ouais, de chacun.
Une sorte de best-of, alors?
Ouais, de best-of, mais tu mets les quatre noms dessus, quoi.
D'accord.
C'est de faire du sens, en fait. Ça fait sens, d'ailleurs, quand t'écoutes, ça fait vraiment sens.
Oui, j'imagine qu'ils ont quand même un peu réfléchi au choix des chansons ensemble, éventuellement, pour donner une cohérence.
Ouais, puis même dans la façon d'appréhender la chanson, justement, tu...
Ouais.
Alors, c'est pas des copier-coller les uns des autres, hein, mais tu sens qu'il y a une... non pas une filiation, mais une...
Fraternité.
Une fraternité assez évidente, quoi, dans le métier. Et pourtant, c'est un métier de, un peu de solitaire. Enfin, on disait, Jacques Bertin, il faisait ses tournées, en tout cas. Enfin, moi, quand j'ai vu en concert, il était solo avec sa caisse, et puis il arpentait les villes, quoi.
Peut-être qu'il nous parlera des concerts tout à l'heure.
Ouais, carrément, c'était marrant. Plaisir, tout ça, ouais. C'était chouette moment, ça.
Et, paradoxalement, alors, c'est aussi un des traits, moi, que j'ai relevé. Alors, là aussi, est-ce que j'ai un biais ou pas? C'est pas impossible. Mais paradoxalement, cette rencontre amicale entre artisans de la chanson, si on peut dire, tranche un peu avec un des traits de cette œuvre qui m'a beaucoup plu, c'est la solitude, quoi. Il y a un espèce de moment de franche solitude dans les paroles de Jacques Bertin. J'ai l'impression que c'est quand même un mec solitaire et qui s'adresse à des solitaires et qui a une espèce de solitude comme ça qui est vraiment dans ses chansons.
Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on entend. Après, je sais pas au quotidien comment ça se passe, je m'en fous un peu, mais
oui, bien sûr.
Mais par contre,
en tout cas dans l'œuvre, quoi.
Et en plus, c'est pas une solitude dans les chansons où tu sens qu'il se met au-dessus de la mêlée parce que poète ou quoi que ce soit. C'est la solitude des êtres.
Ouais, c'est, pour reprendre une image de Paul Éluard, c'est pas la solitude des sommets de montagne, c'est la solitude de la foule.
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, toujours seul au milieu d'une foule, t'es vraiment seul au milieu de la foule, quoi. Ouais. Et il y a des morceaux où c'est hyper éloquent. Et ça prend plein de formes différentes. Je pense à un morceau qui s'appelle Claire, et où en fait il te parle de la solitude à deux, justement, et de parfois l'impossibilité d'être avec quelqu'un. Et quand même tu voudrais, quoi. Juste vous êtes parallèles, vous êtes ensemble mais parallèles, quoi. Et il le fait de manière, à sa façon, quoi. C'est-à-dire manière toujours délicate, mais sans tourner autour du pot, en donnant, en visualisant ce que c'est, quoi. Concrètement, quelle est la situation. Et encore une fois, je reviens là-dessus, mais je trouve ces chansons qui sont infiniment visuelles. Où tu les écoutes, tu les goûtes en fait un peu, quoi. Je vois vraiment les situations. Dans Claire, il y a à la fin du morceau, il dit retiens-la, elle s'en va, quoi, dans les escaliers. Arrête Claire, retiens-la. Et t'imagines très bien le type qui ne la retient pas, du coup, quoi, qui voudrait peut-être le faire. Mais c'est très simple, il n'y a pas d'allégorie, il n'y a pas d'image. Te dit paf, paf, paf. Et c'est pour ça aussi que toi, après, derrière, Enfin, moi, en tout cas, quand j'écoute ça chez moi, je me dis, ouais, putain, le type est fort parce que. Ouais, enfin. Il met pas de barrière, quoi. La situation qu'il décrit, elle est réelle. Il y a un effet de réel qui est produit qui est assez, assez fort.
On l'écoute, Claire ?
Allez.
Alors, c'est une chanson, on va l'écouter tout de suite, c'est une chanson, effectivement, que tu m'as fait écouter pour préparer cette émission et qui m'a beaucoup marqué parce que, comme tu le dis très bien, c'est une présentation, c'est la solitude à deux, voilà. C'est la solitude dans un moment vraiment le plus intime qui soit à deux, la solitude, elle est quand même là. Et dans les grandes chansons où il parle de solitude, j'en ai retenu une autre qui s'appelle Petit coucher. Où il parle d'une certaine manière du bonheur d'être seul, quoi. À un moment, il dit c'est fou ce qu'on peut. Enfin, pas à un moment d'ailleurs, il le répète dans la chanson. C'est rare, mais pour une fois, c'est une sorte également de refrain. Où il dit c'est fou ce qu'on peut être peinard quand on est seul, tranquille quand il n'y a pas les autres. On peut les enchaîner les deux ?
Ah, carrément.
Parfait, allons-y.
Entends le disque tourne à vide, entends-tu le silence ? Un pas dans l'escalier décroît, il ne fait pas tout à fait nuit. Ton ami reviendra demain ou ce sera une autre, peu importe, avec des nattes tout claires, avec ses cheveux blonds et l'accent du Québec. Il y aura des réunions demain et sous la pluie des marches pour le Vietnam ou la Grèce et toi tu signes des deux mains. Tu n'aimes pas les cris, pourtant tu n'aimes pas ceux qui croient. Claire viendra peut-être, mais tu préférerais être seul. Vous marcherez sur le trottoir le long du défilé. Vous ne crierez pas les slogans clairs, n'ose pas te parler. Claire a de petits seins, elle n'aime pas rester nue. Après l'amour, tu ne sais pas bien si tu l'aimes, mais elle a un regard confiant. Elle te dit qu'avec toi, elle a appris à jouir. Tu ne réponds rien, tu ne veux pas qu'elle t'emprisonne. Tu te tiens à l'écart. Attrape Claire dans l'escalier, dis-lui, reviens Claire, retiens-la, la nuit tombe et le silence te nargue Claire, retiens-la. Entends le disque tourne vide, entends-tu le silence? Un pas dans l'escalier des croix, il ne fait pas tout à fait